sommes heureux de te recevoir et je te donne la parole au nom du séminaire de l'art.
Cher Olivier, cher Alain, cher Jean-Sébastien, merci beaucoup de votre accueil, de votre invitation. Et je vais donc, merci, chers collègues, de votre présence et de votre participation. Zola en poche, un classique détonnant. Qu'est-ce à dire? Dans cette formule, l'adjectif peut sembler de prime abord contre-intuitif, si l'on songe à la prodigieuse audience d'Émile Zola. Poids lourd de l'édition dès le XIXe siècle et plus encore au siècle suivant avec les collections de poche de la décennie 1950-1960 et surtout à partir de 1967, date où l'écrivain entre dans le domaine public. Des documents vont ponctuer mon exposé et je vous propose tout de suite de regarder le premier sur cette date un peu étonnante de 1967 qu'explique Alain Paget dans son excellent guide Émile Zola paru en 2002. Et depuis réédité d'ailleurs chez Ellipse en format de poche, ce qui témoigne d'un succès. Et je sais hein, que les étudiants pratiquent beaucoup, entrent dans l'univers de Zola grâce à ce très beau dictionnaire, ce très beau guide écrit par Alain et Owen Morgan. Le document 1 donc, explique le retard de cette date de 1967, l'entrée de Zola dans le domaine public. Comme le remarquait Henri Mitran, dans l'article sur Émile Zola en librairie, reste pour nous un jalon essentiel. Alors, je vais montrer aussi une bibliographie que les spécialistes, évidemment, connaissent. Henri Mitran a publié en son temps un article repris dans l'histoire et la fiction qui s'appelait Émile Zola en librairie. C'est un article qui était paru dans le catalogue général des livres imprimés à la Bibliothèque nationale. Et Henri Mitran, dans cet article, qui reste un jalon essentiel, dit que le phénomène du livre de poche a été favorable à Zola plus qu'à aucun autre romancier français. Plus récemment, Jean-Yves Mollier déclare que c'est l'apparition du livre de poche qui renversa le cours de l'histoire éditoriale de l'écrivain naturaliste, mal engagé en effet après sa mort à cause d'un certain nombre de proscriptions morales et idéologiques. Vous voyez dans la documentation le tableau emprunté là aussi à un ouvrage d'Alain Pagès, le bilan critique sur Zola qu'il a réactualisé. Dans ce tableau figurent à la fois les dates de première publication, de la première publication en poche des Rougon-Macquart, la fin des années 1950, le début des années 1960, et les tirages des Rougon-Macquart en 1972 et en 1993. Je cite Alain qui écrit: avec plus de 17 millions d'exemplaires en 1993 et sans doute plus du double aujourd'hui, l'œuvre de Zola devance toutes celles qui sont éditées en collection de poche. Alors, je vais faire deux remarques à ce propos. La première, c'est qu'il était dans mon intention d'ajouter une colonne statistique pour l'époque actuelle, pour savoir où nous en sommes au début des années 2020, mais les éditeurs des collections de poche, de plus en plus nombreux et très sollicités en cette période d'anniversaire de leur métier, ne communiquent pas ou plus sur leurs chiffres, devenus, m'a-t-on dit avec une pudeur que j'ai trouvée curieuse, données sensibles, c'est-à-dire secrets bien gardés. Les grands groupes se livrent une concurrence féroce sur ce segment de l'édition très rentable, où les collections et les sous-collections se chevauchent. En consultant par exemple la base de données Edistat, on s'aperçoit qu'il y a une vingtaine d'éditions plus ou moins concurrentes de Germinal. Alors, à la place des chiffres actuels sur l'édition de Zola en poche, impossible à obtenir auprès des éditeurs des collections que j'ai contactés, n'ayant parfois aucune réponse, eh bien, j'ai décidé de considérer avec vous le document numéro 3, qui est la situation du livre de poche dans l'édition aujourd'hui. Ce document témoigne du succès de cette présentation. Avec 121 millions d'exemplaires vendus l'année dernière, toutes collections confondues dans tous les domaines, même si ce qu'il est convenu d'appeler littérature se taille la part du lion avec 50% du chiffre d'affaires du livre de poche. Ça signifie qu'un exemplaire sur deux vendu au format de poche l'est en littérature générale. Et évidemment, on doit y inclure les classiques. Alors, ces données brutes contraste avec les lamentations sur la baisse tendancielle du taux de la lecture en France, peut-être, mais c'est sur ce point que je vais formuler une deuxième remarque. Alors, le secteur très dynamique du livre de poche, un peu confus tout de même, voire anarchique, est en pleine expansion. Alors à cela, plusieurs raisons. Il tire profit des politiques publiques de développement et de renforcement de la lecture en milieu scolaire. Par exemple, une partie du pass culture, 300 euros par étudiant qui amorce ses études supérieures, est évidemment, pour les étudiants littéraires, par exemple, consacrée à l'achat de livres. Et de livres de poche, bien sûr, plus précisément. Par ailleurs, nombre d'œuvres éditées, parmi les œuvres éditées, à peu près tous les classiques appartiennent au domaine public. Les dépenses fonctionnelles sont limitées. Le modèle économique est rentable. Alors, je suppute de très bonnes marges bénéficiaires pour Hachette, Madrigal, Editis, sans quoi on ne comprendrait pas les dépenses d'investissement et la résistance du livre imprimé face au livre numérique, dont les parts de marché sont très limitées, 3,5%, alors qu'il date techniquement de 1971 et que sa vocation commerciale remonte à 1998, soit déjà un quart de siècle. Eh bien, après un quart de siècle, on continue d'acheter et de lire des livres de poche papier. Alors, je reviens à Zola. J'ai essayé de comprendre le refus des éditeurs à communiquer leurs chiffres malgré mon insistance, parfois à la limite du harcèlement. Bon, après, ces gens ne sont pas toujours aimables et ils savent faire la sourde oreille. En 1953, à la date de la création de la collection du livre de poche chez Hachette, et non du livre de poche lui-même, puisque le petit livre existe depuis l'invention de l'imprimerie, Zola entrait dans la modernité éditoriale avec une concomitance d'ailleurs étonnante de la lecture généralisée et de la recherche spécialisée, avant l'arrivée des Rougon-Macquart dans les programmes scolaires. La troisième partie de la bibliographie de Bagulet et de David Bagulet, en retenant la découpe chronologique de 1952 à 1970, rappelle l'importance de cette période clé dans le processus de reconnaissance officielle de l'écrivain. Sous l'impulsion de grands spécialistes comme Henri Mitran, Paulette Becker, Roger Ripoll, Auguste de Zalée, qui ont tous édité Zola en poche, s'est amorcé, il y a trois quarts de siècle, un processus de dévulgarisation, de requalification du statut du romancier, du nouvelliste, du critique, un processus qui, à mon sens, est toujours en cours. Le défaut de reconnaissance de l'écrivain dans l'ordre symbolique est alors corrigé par son installation dans le monde officiel de la connaissance, 50 ans après sa disparition. L'arrivée de Zola dans le système scolaire est à peu près simultanée, donc plutôt tardive, si l'on songe qu'il y a déjà des mentions de Victor Hugo dans les manuels scolaires de la décennie 1860-1870. Je renvoie dans la bibliographie aux travaux de Chervel. À ma connaissance, nous manquons d'une étude fine et approfondie comme celle exemplaire que Roger Fayolle a consacrée en 1972 à l'entrée progressive et à la présence de Baudelaire dans les programmes d'enseignement. Les petits classiques scolaires, un genre qui existe toujours et qui a des affinités avec les collections de poche actuelles, qui les précède même au XXe siècle, se sont ouverts à Zola dans la décennie également 1950-1960. La collection GF, à laquelle je collabore un peu, a été créée en 1964. Elle a commencé à publier Zola en 1968. L'édition des Rougon-Macquart s'y échelonne de cette date à 1975. Voir le tableau, présente les titres, l'entrée de la première édition, les commentateurs des plus anciennes éditions toujours en vente et l'édition la plus récente dans la deuxième colonne avec le commentateur ad hoc. Quels sont aujourd'hui la place et le statut de Zola dans les collections de poche de caractère universitaire? Dernière innovation en date dans le processus d'édition à grande échelle de cet écrivain. Voilà la question que je me suis posée. Et la thèse que je voudrais défendre, c'est que ces collections patrimoniales, à la conjonction de la recherche, de l'enseignement et de la lecture libre, réduisent les écarts qui séparent ces trois approches. Elles apportent des informations fiables, accommodent le public à l'idée que Zola est effectivement un écrivain classique, mais un classique détonnant, tant par la variété des œuvres que par la richesse des interprétations qu'elles suscitent. Un tableau comparatif, document numéro 5, un tableau comparatif retient trois collections de référence. Les classiques de poche, ex le livre de poche classique, créé en 1958, GF de Flammarion, créé donc en 1964, et Folio classique de Gallimard, qui s'est subdivisé de Folio en 1994. Alors l'édition de Zola, c'est un sujet en soi, hein, absolument passionnant, si l'on prend l'affaire depuis le 19e siècle, je vais le faire brièvement. Alors ce n'est pas mon propos ici, Et il manque d'ailleurs sur ce point, je le remarque, une grande synthèse, un livre ou une thèse. On pourrait même y consacrer toutes les séances d'un séminaire annuel. En remontant dans le temps, je veux juste imaginer que Zola, qui était très lu dans les journaux, donc d'une manière forcément discontinue, non linéaire, aurait encouragé l'édition soignée de ses œuvres en livre de poche, qu'il aurait certainement apprécié l'alliance du commentaire critique de qualité et de la diffusion de l'ensemble de son œuvre auprès d'un public de plus en plus éclairé, et plus précisément en direction de la jeunesse, cette jeunesse, dit-il, qui a 20 ans aujourd'hui, qui sera la société de demain. Il reprend ce programme, ce slogan quasiment. Quelques mots sur la situation de l'édition de Zola au XIXe siècle. Zola, il est contemporain de la deuxième révolution du livre de poche, celle du XIXe siècle. Je suis ici la chronologie et les indications d'un ouvrage remarquable d'Isabelle Olivero, paru à Sorbonne Université Presse, anglicisation détestable de les presses de l'Université de la Sorbonne, les trois révolutions du livre de poche. Zola a fait la fortune de Georges Charpentier, mais en fait, le grand homme de la famille, l'éditeur de génie, c'est plutôt Gervais Charpentier, le véritable inventeur des classiques de poche. Comme le montre le catalogue et l'annonce qui l'accompagne, publiée dans le Journal des débats, en 1841. Donc, je vous propose de regarder ce catalogue de la bibliothèque Charpentier. Et j'ai un peu agrandi l'annonce qu'en fait Gervais Charpentier. Parce que quand on lit de près ces épitextes, ben, il semble parfaitement coïncider avec le cahier des charges de nos collections de classiques contemporaines. Ainsi, le célèbre éditeur des Fleurs du Mal salue l'innovation de Gervais Charpentier. Il célèbre à juste titre cette rupture créatrice qui, combinée avec le développement de la presse à grand tirage, entraînait à moyenne échéance la disparition, c'est très important, des cabinets de lecture. Et donc, permettait une appropriation de la lecture beaucoup plus prononcée, une personnalisation en quelque sorte de la lecture, ce qui est toujours un petit peu le but du livre de poche. Donc ce document est assez intéressant sur la création du In 18 anglais qui a été perçu par un autre éditeur, Poulet Malassi, éditeur des Fleurs du Mal, Baudelaire, comme une grande révolution culturelle. À cette innovation technique dans l'édition, s'est ajouté un critère crucial aujourd'hui, celui de la sélection qualitative. Gervais Charpentier partageait le vœu d'une bibliothèque choisie, selon le mot de Naudier, pour pallier la surproduction et la confusion, le déferlement du mauvais. Et là, je reviens un peu en arrière pour montrer effectivement la qualité du catalogue conçu par Gervais Charpentier, qui est déjà celui des classiques d'autrefois et des classiques contemporains. En fait, une bonne collection a le souci du canon. Partant de ce constat et de l'offre éditoriale actuelle, se pose maintenant le problème de l'accès aux œuvres. De son vivant, Zola, qui tenait à être publié coûte que coûte, a été lu sous différentes formes. Les feuilletons dans les journaux, principal mode d'accès pour le public populaire, les livres publiés par Lacroix, Georges Charpentier, Flammarion, Fasquelle, illustrés ou pas, dans différents formats. Mais tandis que stimulé par les initiatives de Gervais Charpentier, Michel Lévy et Hachette accompagnent la démocratisation de la lecture, le premier avec la bibliothèque des chemins de fer en 1853, le second avec le livre à 1 franc, la collection Michel Lévy, c'est 1855, et on sait que le prix va même descendre jusqu'à 60 centimes. Bien, Georges Charpentier, Zizi, hein, le fils de son père, a maintenu l'offre à 3,50 francs pour les livres qu'on connaît bien, à la couverture Jeune Serein. Et ce sont tout de même ces livres-là, de Georges Charpentier, le fils de son père, qui vont permettre de diffuser de manière commode la totalité de l'œuvre de Zola, les contes, les romans de jeunesse, l'œuvre critique, les derniers cycles romanesques, jusque dans les années 1950, au moment de la jonction, au moment de la création du livre de poche, la troisième révolution du livre de poche, celle de Philippe Aki, en 1953, chez Hachette. Paradoxalement, à ce moment-là, pour Zola, comme pour d'autres auteurs du XIXe siècle, la troisième révolution du livre poche va entraîner une constriction de l'offre et une lecture plus sélective malgré l'entrée de l'œuvre dans le domaine public. Il y a donc un paradoxe, finalement, qu'on trouvait en 1950 plus facilement les œuvres de Zola chez Charpentier, qu'on ne les trouvera quelques années plus tard en collection de poche. Avant 1952, on pouvait trouver en librairie tous les Rougon-Macquart, bien sûr, mais également la Confession de Claude, documents littéraires, une campagne ou travail. Et je signale que ces trois derniers titres ne figurent dans aucun catalogue actuel. Comme le montre le document 5, à partir des trois collections de référence, des classiques. Zola dans les collections de poche en 2021, voilà où nous en sommes. Alors maintenant, parlons un petit peu du XXe siècle et du XXIe siècle. La situation est quand même en passe d'évoluer depuis cette époque, mais elle est pour une large part tributaire des lectures qu'on fait de Zola à l'université, mais surtout dans les classes du secondaire. Alors paradoxalement, c'est un frein au lieu d'être un accélérateur. Zola au lycée, ça ne s'est pas fait sans mal, et les biais de présentation restent nombreux. Tous les auteurs souffrent peu ou prou de la canonisation, de l'institutionnalisation, surtout après qu'ils furent victimes, comme Baudelaire ou Zola, de l'incompréhension ou d'un rejet pour des raisons morales et esthétiques. Dans son exposé de 1974 sur l'audience controversée d'Émile Zola au XIXe siècle, Colette Becker avait bien identifié en particulier le refus des autorités, représenté par les inspecteurs d'académie, les enseignants, les bibliothécaires, soit la bourgeoisie salariée de la Troisième République, d'admettre Zola dans les bibliothèques populaires, où l'on trouvait en revanche en abondance Erckmann Chatrian, Edmond Abou, Jules Sandeau, Victor Cherbulier, la majeure partie des romanciers contemporains, entre guillemets, des faiseurs de romans, traités sans ménagement par Zola, dans un article tonitruant qui fit évidemment scandale en 1878 avant de figurer pour la postérité dans le grand recueil critique Les romanciers naturalistes, dont il forme la conclusion In cauda venenum, et toute proportion gardée, une sorte de j'accuse au sein du champ littéraire à l'usage des éditeurs, des journalistes et du public. En dépit des apparences et de manière moins délibérée, puisqu'il est désormais présent dans toutes les bibliothèques et dans les programmes, Zola pâtit, plus que d'autres classiques, me semble-t-il, d'une méconnaissance dans la reconnaissance. La disqualification a fait la place à la diminution, à la limitation. Les progrès sont très minces. Tandis que les romanciers contemporains, en dépit des coups de verge assénés à cette tangence, pullulent avec une terrifiante fécondité, pour reprendre l'expression qu'utilisait Zola en son temps. Cette promiscuité est délétère. Il y a eu une période faste, celle des années 1980-1990, pendant lesquelles ont paru des manuels de grande qualité, d'ailleurs dirigés par des Zoliens, Henri Mitran et Alain Pagès chez Nathan, ou très favorables et complets sur Zola. Je pense en particulier au très beau manuel de Xavier Darcos paru chez Hachette, dont le volume du XIXe siècle reste vraiment un ouvrage de référence. Mais depuis cette époque bénie, la situation s'est beaucoup dégradée, avec la dissolution du littéraire dans des catégories fonctionnelles, l'impensé de la valeur, la confusion entre écrivain et écrivant, le triomphe de l'indistinction et ce que le psychiatre Jean-Pierre Lebrun repère plus généralement comme les risques d'une éducation sans risque et sans peine. C'est moi qui déforme. Les risques d'une éducation sans peine. Zola est ainsi mis aujourd'hui sur le même plan que de nouveaux romanciers contemporains. Allez, osons quelques noms, on est entre nous. David Funkinos, Fred Vargas, Laurent Godet, Philippe Djian, Anna Gavalda, etc., etc. Soit des auteurs bien de leur temps, mais pas de tous les temps, et qui peuvent difficilement être comparés à Balzac, Stendhal, Hugo ou Zola. Alors, je suis évidemment conscient d'émettre là un jugement de valeur, que j'assume, mais en Hippocagne, par exemple, les étudiants que j'accueille ne perçoivent pas toujours la différence, non pas entre le médiocre proliférant et le génie éclatant, mais je dirais même seulement entre le bon et le grand écrivain. Ils ne voient pas, tant qu'on ne leur a pas montré, le fossé qui sépare les œuvres nécessaires des œuvres secondaires. Je veux bien que la littérature, ce soit un qui écrive n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, pour n'importe qui, disons le public, mais pas n'importe comment. Le style. Après les péripéties d'une réception mouvementée au XIXe siècle, Zola est à de rares exceptions près, et c'est bien là ce qui fait problème, normalisé, standardisé, déformé, édulcoré. Donc censuré, d'une manière assez nouvelle, par ignorance et à bas bruit. En attendant la réécriture idéologique et le retour des ciseaux d'Anastasie placés par les professionnels apeurés dans les mains des sensitivity readers. Concernant Zola, les aspérités de l'œuvre sont déjà gommées. Sa vigueur est émoussée. La lecture des manuels est toujours instructive. J'en ai parcouru une dizaine avant de venir, parmi les plus récents, pour les classes de seconde et de première. Eh bien, c'est assez consternant. Ils sont très sélectifs, manifestement hostiles aux commentaires suivis, à tout ce qui pourrait ressembler à un cours, à une étude en bonne et due forme. Ils pratiquent le calibrage radical, l'émiettage, l'échantillonnage, le pot-pourri. Jean-Michel Potier, d'une expression tout à fait réussie, dit Zola, lire Zola en morceaux. On lit Zola en morceaux. Rien n'est étudié en continu, il faut distraire l'élève, ne pas le fatiguer. Les extraits de romans font parfois seulement 10 lignes. Les Rougon, Macquart sont ramenés à quelques extraits de La Curée, de Germinal, d'Au bonheur des dames. Thérèse Raquin, sans doute appréciée pour sa brièveté, est omniprésente, indissociable de sa préface. Les mêmes phrases du roman expérimental sont reproduites. Seule bonne nouvelle, le nouvelliste fait timidement son entrée dans le canon. Daniel Millot a fait remarquer dans le chapitre des lieux de mémoire consacré aux usages de ce mot pour parler des classiques scolaires qu'il était largement métaphorique puisque le canon, dans le sens religieux, qui est le sens initial, a cela de singulier, dit-il, qu'il est hermétiquement fermé. En l'occurrence, c'est aussi vrai pour nombre d'auteurs modernes comme Zola. Toujours les mêmes œuvres et toujours les mêmes passages des mêmes œuvres. Le constat s'aggrave quand on passe de la limitation du corpus à la teneur du commentaire. Aussi mince soit-il, ce qui est déjà un frein pour la connaissance et a fortiori pour la compréhension. Le Zola classique scolaire, aseptisé, normalisé, c'est le reporter, l'enquêteur, le journaliste d'investigation, ou alors, sur le versant mémoriel, le Zola de l'affaire Dreyfus, le grand justicier. La sélection de ces deux figures, d'un côté le réel et de l'autre l'idéal, est préjudiciable à celle du créateur. Du romancier expérimental, si je donne à cet adjectif la valeur poétique poéticienne qu'il recèle. En consacrant l'essentiel de la démarche d'enseignement au réalisme documenté de Zola, on fait de lui le chef de file d'un réalisme documentaire, travers encouragé par le triomphe contemporain de l'histoire vraie et l'abaissement aussi bien quantitatif que qualitatif de l'imaginaire de la fiction. Je rappelle souvent à mes étudiants de Cagne et d'Hippocagne la clausule prophylactique de la princesse sur le poids, l'un des contes les plus universellement connus d'Andersen, qui se termine par cette phrase « Ceci est une vraie histoire ». Pas une histoire vraie, une vraie histoire, pas pareil. L'intérêt que l'on porte au Zola procédural au premier degré est parfaitement justifié, mais j'estime qu'il est exorbitant. Zola est un auteur relativement facile à lire, mais difficile à comprendre et à expliquer parce qu'il coïncide presque idéalement avec un grand texte militant pour le progrès, la science, l'utilité, le vouloir guérir, la positivité des valeurs. Et ce faisant, il met en œuvre des dispositifs textuels et métatextuels de lisibilité, sauf que tout fait problème. Le texte craque sous le poids de cette charge. Dès qu'on gratte, les intertextualités affleurent, la mythographie s'insinue. La transparence fait place à l'opacité et on est amené à considérer ce qu'il faut bien appeler une beauté moderne, aussi trouble et déconcertante que celle des fleurs du mal de Baudelaire. Mathésis et mimésis sont alors indissociables de sémiosis. Comment rendre compte de la méditation sur le cimetière de l'ère Saint-Mitre dans la fortune des Rougon, de la valse des millions dans La Curée, du rigaudon, du délirium tremens dans L'Assommoir, du masque horrible et grotesque du néant composé par le visage en décomposition de Nana. C'est là que se situe le classicisme détonnant avec un seul N et détonnant avec deux N de Zola, quasi inassimilable au regard des normes didactiques et des classifications en vigueur dans les manuels. Le roman philologique, l'épopée linguistique, le carnaval des genres, la fabrique des valeurs, l'ethnocritique, la perplexité, l'ironie, les splendeurs de la médiocrité. Vous aurez reconnu au passage les travaux célèbres de certains de nos collègues et amis, sont au moins aussi importants que, à mon sens, que les carnets d'enquête et le roman sociologique. Le décloisonnement des interprétations présuppose alors une vue d'ensemble, une translation des acquis de la recherche et une certaine liberté analytique dans l'exercice du commentaire, ce qui nous ramène vers nos collections de poche, destinées en priorité au public ciblé des professeurs et des étudiants, éventuellement élargi à des lecteurs adultes ayant reçu une formation universitaire. Dans ses collections, Zola est bien représenté et, comme dit Jean-Michel Potier, on le lit enfin généralement en entier, après l'avoir lu en morceaux. On le lit en entier, même si la tendance anthologique est présente, notamment dans la collection des classiques de poche, où Henri Mitran a procédé à un certain nombre de regroupements. Mais sinon, tous les Rougon-Macquart figurent en texte intégral, évidemment, dans les catalogues en passe de se diversifier, même si ce n'est pas sans mal. Alors, je vais livrer ici une observation un peu plus personnelle, puisque la matière de mon exposé procède essentiellement de mon expérience d'éditeur, de préfacier, de commentateur pour plusieurs maisons, le livre de poche classique, Larousse, Bordas, et surtout la collection GF de Flammarion, qui avait accepté en 2005 un métatexte très étoffé du roman expérimental après que j'eus soutenu ma thèse sur Zola critique littéraire en 2001. En tant que spécialiste de Zola, je vois bien les angles morts du marché éditorial dont nous parlons aujourd'hui. Pardon. L'absence du corpus critique, bien sûr, mais la fiction est concernée. J'ai ainsi été très surpris de ne pas trouver la Confession de Claude en format de poche à une certaine époque, pas très tardive. Il s'agit quand même du premier roman de Zola. Il a fallu batailler, rencontrer Cécile Boyer-Runge, à l'époque directrice du livre de poche, la rencontrer elle et ses assistants, quasiment passer un examen, pour d'abord faire connaître ce livre et en justifier la publication. Alors l'ouvrage a le mérite d'exister en format de poche depuis 2013. Le mouvement de redécouverte est lancé. Isabelle Dubois, une de ces personnes que j'ai harcelées pour avoir des chiffres, l'actuelle directrice du livre de poche en charge du domaine classique, m'a indiqué qu'une édition de Madeleine Ferrat était en préparation livre de poche. Je n'en sais pas plus. Si le commentateur est ici, qu'il se dénonce. Les nouvelles de Zola, c'est un autre exemple intéressant. Il y avait bien une édition des Contes à Ninon chez GF Flammarion depuis 1971 par Colette Becker, mais grâce à l'anthologie en deux volumes proposée dans la même collection en 2008, le talent spécial de Zola dans le domaine de la short story est nettement plus visible. Dans la foulée de cette édition, que j'aurais d'ailleurs souhaité plutôt en trois volumes pour rendre encore un meilleur hommage à cette partie de l'œuvre longtemps négligée, d'autres anthologies ont été publiées au livre de poche et chez GF. Zola journaliste, par exemple, par Adeline Vrona en 2011, La correspondance par Alain Pagès en 2012, Les soirées de Médan par Alain Pagès et Jean-Michel Potier en 2015. Des éditions toujours très soignées, remarquables à certains égards, puisque dans la première, Adeline Vrona a publié un inédit, La Marseillaise, seul journal créé par Zola en pleine guerre de 1870, il y a un facsimilé page 163-164. Dans la deuxième, celle de la correspondance, Alain Pagès a procédé à des corrections significatives après avoir consulté les originaux de certaines lettres, notamment celles qui avaient été adressées à Anthony Valabrègue, une série à laquelle Alain a eu accès grâce à Olympia Alberti, dont tu pourras peut-être nous dire deux mots après. La troisième édition, celle des soirées de Médan, est agrémentée d'un important dossier, 40 pages sur le groupe de Médan, la bataille littéraire, l'esthétique naturaliste, en peinture, la description de la guerre au XIXe et au XXe siècle, etc., etc. On y trouve également des notices biographiques, en plus de la paracritique habituelle. Dans la seule édition de poche, commentée du roman expérimental, paru chez GF en 2006 avec un péritexte de 140 pages, sont reproduites pour la première fois les notes dont Zola a accompagné sa lecture de l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale de Claude Bernard. J'avais pu consulter l'exemplaire personnel de l'écrivain mis en vente en 2005 chez Drouot, exemplaire de l'édition Bayer de 1865, annoté et complété par un cahier par Zola et complété par un cahier monté sur onglet. Et c'est quasiment le manuscrit préparatoire du roman expérimental. Alors, au vu de ces documents et du soin apporté à ce genre d'édition, on s'explique mal l'absence de leur mention, même dans les recherches universitaires. Je vais y revenir. Chez F, qu'il faut saluer au passage, s'est fait une spécialité de ce genre qualitatif. Mais les autres éditeurs ne sont pas en reste. Vous voyez, grâce à Jacques Noiret, Les Trois Villes, paru entre 1995 et 2002, dans une édition irréprochable, Ad Unguem, qui a comblé d'un coup une lacune considérable des catalogues. Ces collections de poche de caractère universitaire ont beaucoup évolué depuis leur création, ce qui fait leur force. Garnier Flammarion, dont les deux noms nous renvoient au XIXe siècle, a d'emblée été conçu, par exemple, avec un petit apparat critique, inédit, en général une préface rédigée par un spécialiste, pour Zola, c'était Henri Mitrand, Colette Becker, Robert Joigny, Robert Ricat, etc. Et quelques notes. En 1979, la collection Garnier Flammarion se transforme en GF, avec l'ambition de devenir, pour tous ceux qui privilégient la qualité de l'édition des œuvres classiques, la collection de poche de référence pour la littérature et la philosophie. Actuellement, 1200 titres figurent au catalogue. C'est la pertinence, le sens de la synthèse et en même temps l'accessibilité de l'appareil critique qui font la spécificité de cette collection et la rendent incontournable, notamment pour le public étudiant. La charte graphique utilise les services d'une éditrice à plein temps, une illustratrice à plein temps, une directrice artistique, Virginie Berthemé. Et cette charte graphique, qui évidemment accompagne la lecture, la découverte et la lecture de l'œuvre, facilite encore l'identification de la collection. Elle évolue beaucoup au fil du temps et assez régulièrement. Voici par exemple le dernier exemplaire de La Fortune des Rougon, paru cette année chez GF. La collection littéraire, c'est d'ailleurs chez GF, alignée sur les exigences de la collection philosophique très prestigieuse. On pense aux éditions des Dialogues de Platon par Brisson, ou à celle de Kant par Alain Renaud. Donc il y a déjà une sorte d'amorce, je puis dire, du côté philosophique, de modèle, d'exemple, hein, qui amène les éditeurs de GF à aligner en quelque sorte la collection littéraire sur les exigences de la collection philosophique, qui rend un énorme service à tous les philosophes. L'apparat critique s'est beaucoup développé au fil du temps. Les notes sont beaucoup plus nombreuses. Je prends par exemple La Fortune des Rougon, il y a 300 notes. Il y a 470 notes pour Pobouille, qui vient aussi de paraître et dont s'est occupée Corinne Samina Dayard. Et surtout, l'éditeur a accepté d'étoffer son catalogue avec des inédits en poche. Les romanciers naturalistes est paru en 2020. Et c'est la seule édition qui met à profit les acquis de la recherche récente, notamment l'importante thèse de Myriam Isabelle Nuc, soutenue en 2003 sous la direction d'Alain Pagès, « Émile Zola et la Russie, histoire d'une conquête littéraire ». Alors, concernant les inédits, on notera en regardant le tableau comparatif que le livre de poche a tendance à publier plutôt des anthologies. Pardon, un peu en arrière. Folio a donc le mérite de faire figurer les trois villes dans son catalogue. Et GF n'est pas hostile à l'inscription de nouveaux livres en texte intégral sur le modèle de Méhaine ou des romanciers naturalistes. On pense évidemment, en tout cas c'est le projet que j'aimerais défendre auprès de l'éditeur, aux documents littéraires, au naturalisme au théâtre ou encore à une campagne. Voilà des ouvrages qui trouveraient à mon sens leur place dans une collection de poches classiques. GF a aussi prévu de rééditer les Rougon-Macquart les plus anciens de son catalogue. Il ne s'agit pas alors là de procéder à un simple toilettage, mais de proposer des lectures, plus modernes, plus ambitieuses, actualisées, qui prendront en compte les avancées de la recherche sans verser dans l'érudition. Un avant-propos figure et figurera en tête de ces nouvelles éditions dans les années qui viennent. L'idée, pour faire apprécier l'originalité de Zola, élargir les perspectives de lecture, appréhender correctement ce que Olivier Lambroso appelle, à juste titre, d'une formule très heureuse, le naturalisme de la complexité, dans son dernier livre sur la bête humaine, eh bien, l'idée, c'est d'opérer des rapprochements moins attendus de notre auteur avec la littérature d'hier et d'aujourd'hui, la philosophie et les sciences sociales. Par exemple, dans l'édition de La Fortune des Rougon, il y a des parallèles non seulement entre Zola et Eugène Thénault, parallèles attendus, mais également entre Zola et Marx, Zola et Tocqueville. Et aux auteurs habituellement recensés dans la critique zolienne vont s'ajouter, par exemple, Gérard Noiriel pour l'histoire, Christiane Clapiche-Zuber ou Pierre Legendre pour rendre compte de l'imaginaire de l'arbre, La Rochefoucauld, La Fontaine ou Hume pour l'étude de la nature humaine, les types et les caractères, Yankelevitch pour penser l'irréversibilité. Pour l'édition GF de la Curée, ont été utilisés, entre autres, la théorie de la classe de loisirs de Thorsten Veblen, les noms de l'histoire de Jacques Rancière, le concept de singularité quelconque de Giorgio Agamben, les enquêtes du couple Pinson sur la grande bourgeoisie. Comme disait Henri Mitran dans son épilogue de Zola à l'histoire et la fiction, son œuvre reste ouverte à des analyses critiques dont nous n'avons pas encore la moindre idée. C'est bien la marque de la modernité. L'actualisation de ce classique, je vais parler maintenant un peu de Zola aujourd'hui, au XXIe siècle, l'actualisation de ce classique passe donc par l'élargissement des références. De nombreux angles d'approche et d'interprétation qui rend possible l'édition de qualité dans les collections de poche les plus exigeantes. Elles encouragent un style qui relève davantage de l'essayistique que de l'érudition. L'état présent de la recherche sous tel ou tel roman s'agrémente alors de variations herméneutiques au sens de Gadamer, et c'est ce pas de côté du commentaire suggestif qu'accueillera bien volontiers un éditeur qui ne peut évidemment ni infliger 100 pages de présentation, pas infliger 100 pages de présentation à l'étudiant ou au professeur. On ne va pas se contenter d'une simple balade dans l'œuvre et on ne force personne à faire un marathon. Disons, pour filer la métaphore sportive, qu'on pratique le demi-fond. C'est en variant les approches et en cultivant des parallèles parfois inattendus, mais toujours féconds, qu'on justifiera une lecture contemporaine, décloisonnée et accessible de Zola, qu'on fera de lui autre chose qu'un auteur moyen, comme on parle d'art moyen, entre le savant et le populaire. En l'occurrence, il vaut mieux parler d'élitisme démocratique. L'enjeu est bien de lire Zola au XXIe siècle, pour reprendre le titre du colloque de Cerisy de 2016. On remarquera à propos de ce colloque hautement symbolique que ces actes ne sont accessibles qu'en bibliothèque universitaire, dans la collection des classiques Garnier, alors que ceux du premier événement de 1976 avaient été publiés par l'Union Générale d'Édition dans la collection de poche d'I-18. Quelque chose a changé. Même si telle n'est pas son intention, la recherche à son corps défendant fonctionne en circuit fermé. Dans les actes du dernier colloque, toutes les références à l'œuvre de Zola sont normalisées. Elles renvoient à la bibliothèque de la Pléiade, pour les Rougon-Macquart, et aux œuvres complètes, parues chez Nouveau Monde. Les éditions à caractère universitaire enrichies de préfaces et de documentations annexes signalées par Alain Pagès dans sa section de son guide consacrée à l'édition de Zola ne sont pas mentionnées, sauf erreur ou inattention de ma part. La ségrégation par le haut fait alors le lit de la diminution par le bas, si vous voulez. L'édition soignée mais accessible dans les collections de poche est pourtant un bon moyen de réduire cet écart. C'est l'alternative attendue à l'enterrement de première classe. À cet égard, relativement à l'audience, à l'enjeu de la lecture contemporaine de Zola, mon intervention se situe dans le sillage de celle qu'ont proposé dans ce colloque Jean-Yves Mollier sur l'édition, Adeline Vrona sur la patrimonialisation dans la presse contemporaine, et surtout Jean-Michel Potier, que j'ai déjà mentionné avec son article sur la place de Zola dans les manuels scolaires. Merci Jean-Michel. Relativement à l'édition savante, dont je veux parler en dernier, très brièvement, la situation de Zola est plutôt satisfaisante. Elle a été décrite par Henri Mitran, qui s'est occupé des Rougon-Macquart dans la bibliothèque de la Pléiade, de grandes éditions de œuvres complètes au Cercle du Livre Précieux entre 1966 et 1970, puis chez Nouveau Monde entre 2002 et 2010. Les classiques Garnier, avec cette couverture jaune qui montre que la collection est toujours l'ami de Zola et du naturalisme, ont pris le relais et accompagnent la publication des œuvres complètes, de thèses, d'essais, de mélanges. Le catalogue est d'ores et déjà d'une grande richesse, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle, une bonne chose. Mais sans parler de l'austérité de cette collection refuge, présente surtout dans les bibliothèques universitaires et les bibliothèques des universitaires, pourquoi continuer à ignorer les meilleures éditions de poche qui conjoignent qualité, disponibilité et de plus en plus actualité et originalité, sans parler de leur attrait esthétique et, last but not least, de leur prix modique. D'où vient la réticence des chercheurs, pas tous heureusement, à mentionner les bonnes éditions de poche dans leurs travaux. Pour la Confession de Claude, ils vont renvoyer le lecteur à l'édition originale de 1865, à Hébreu International, de la Croix, ou au tome 1 de l'œuvre complète au Cercle du Livre Précieux, où le roman est seulement précédé d'une courte préface d'Henri Guillemin. Il y a maintenant la contribution de Nicole Savy, c'est vrai, aux œuvres complètes chez Garnier en 2018, Mais outre le prix, 38 euros contre 7 euros au livre de poche, c'est imbattable, la destination n'est évidemment pas la même. On fonctionne donc en circuit fermé. Comme dit Montaigne, que je feuilletais un peu avant de venir, les savants à qui touche la juridiction livresque ne connaissent autre prix que la doctrine et n'avouent autre procédé en nos esprits que celui de l'érudition et de l'art, de cette, de la présomption. Prenons encore le roman expérimental, ou Méhaine. Les éditions GF, aisément disponibles, sont parfois rarement citées, mais nombre de chercheurs en voient, alors même qu'ils ne les utilisent que pour en faire des citations, aux éditions Charpentier du XIXe siècle ou aux œuvres complètes. Il y a ici un biais qui me semble renvoyer à des habitudes bien installées. On méconnaît les bonnes éditions en collection de poche, on recommande systématiquement par paresse, habitude et connivence tacite, la bibliothèque de la Pléiade, les collections universitaires, qui ne sont d'ailleurs pas toujours irréprochables, nombreuses coquilles, par défaut de relecture et absence d'éditeurs professionnels, tendance à la compilation, triomphe de l'entre-soi pour légitimer son appartenance au champ, omission bibliographique, parfois monstrueuse. Je ne donne pas de détails. Cette indifférence est un ostracisme à l'envers, si vous voulez. Je prends pour finir l'exemple du dernier volume des Cahiers naturalistes, en grande partie consacré à la curée, qui ressemble à une opération de promotion en faveur d'une seule édition, celle qui est parue au Classique Garnier en 2012 et qui coûte 49 euros pour ceux qui voudraient le livre dans leur bibliothèque. Chez GF, on a procédé en 2021 à une réimpression de l'édition de 2015 qui contient une introduction de 47 pages, un dossier de 60 pages, 250 notes, tout en faisant un large usage du dossier préparatoire. Cette édition n'est pas mentionnée une seule fois. Bon, ces dernières remarques, c'est juste pour alimenter un peu le débat, puisque je suis arrivé à ma conclusion. En quelques mots, il ne faut pas craindre de dire que les éditions de poche de petit format et à bon marché sont parfois les meilleures. Je ne vais pas prendre Zola un exemple, mais Baudelaire. L'édition d'André Guyot, des Fusées, Mon cœur mis à nu, La Belgique déshabillée, actualisée en 1986, eh bien, c'est incontestablement la meilleure édition des textes que dans la Pléiade, on rassemble d'une dénomination incorrecte sous le titre Journaux intimes. Ces éditions, elles peuvent être meilleures parfois parce qu'elles sont les seules ou qu'elles sont les plus récentes. Pour rester sur l'exemple de Baudelaire, il est plus facile de publier une nouvelle édition des Paradis artificiels en collection de poche que de lancer une nouvelle édition de la Bibliothèque de la Pléiade, même si une nouvelle édition des œuvres complètes de Baudelaire à la Pléiade est prévue pour 2024. Tout ce qu'on peut souhaiter des éditeurs de ces collections de poche, c'est qu'ils persévèrent dans les directions empruntées, que l'offre soit enrichie, que la lecture de Zola soit améliorée, réactualisée, que ces collections soient reconnues à leur juste valeur, en amont dans la recherche, puisque c'est d'elles que sont issus les commentateurs, et en aval, dans l'enseignement secondaire, puisque elles sont une alternative au manuel dont on a fait plus haut le procès. Le spécialiste qualifié ne doit pas oublier d'être un lecteur, et pour ce faire, il ne doit pas oublier son lecteur. Il doit travailler à constituer un public cultivé, émancipé des modes de consommation dominants et situé hors du cercle des experts. Le livre de poche a sa grandeur, qui n'est pas proportionnelle à sa taille, comme nous l'apprend l'histoire de ce format depuis la Renaissance. Entre la recherche soumise à ses tropismes et le tout venant, entre la circonscription et la simplification, entre l'édition savante et le secteur strictement commercial ou le parascolaire, il y a, c'est ce que j'ai essayé de justifier, une place et un avenir pour les collections de poche d'inspiration universitaire. Elles occupent une position originale, mise sur l'actualisation des connaissances, le décloisonnement et le renouvellement des interprétations. Elles doivent donc faire détonner et surtout résonner les classiques, montrer qu'ils sont plus modernes que nombre d'auteurs et d'œuvres contemporaines censées incarner la littérature, mais qui la dispersent, l'avilissent et la dévitalisent. Comme disait Flaubert dans une lettre du 30 janvier 1847 à Louise Collet, au lieu de faire une œuvre, il est peut-être plus sage d'en découvrir de nouvelles sous les anciennes. Je vous remercie.
François-Marie, j'ai envie de reprendre un slogan qu'on a évoqué il y a quelques semaines à propos d'Henri Mitran. Et on disait ceci d'Henri Mitran, c'était un slogan des années, je crois, 80, où il était écrit, en gros, « Mitterrand fait la révolution dans les lycées ». Alain se souvient de ce slogan. J'ai envie de dire aujourd'hui, Mourad fait la révolution dans l'édition, parce que c'est une révolution que tu fais dans l'édition des œuvres de Zola. Et c'était passionnant de voir qu'on était très loin d'un inventaire d'édition au fil du temps, ce que tu aurais pu faire, bien entendu. Mais c'était une facilité et quelque peu ennuyeux. Mais plutôt, tu nous interroges sur notre rôle académique, universitaire, de chercheur. Tu interroges la société par rapport à sa capacité à absorber aussi un patrimoine classique important. Et au fond, tu proposes une réflexion didactique de fond. Nous sommes certains enseignants, didacticiens, professionnels ou amateurs autour de cette table. On conçoit la didactique comme une transposition le plus souvent. On prend des savoirs savants, on les simplifie, on les met dans le bouquin. Et toi, tu nous dis non, la didactique, ce n'est pas que de la transposition, ce n'est pas que de la translation, c'est de la création. C'est une création en soi. Et je trouve que c'est passionnant parce que tu nous montres au fond que l'édition n'est pas simplement le lieu d'un transfert de savoirs savants, c'est un véritable laboratoire. Et non seulement un laboratoire de connaissances, mais un vrai laboratoire de recherche. Puisque tu inventes des traversées, des chemins de lecture, tu fais des interférences et des connexions neuves, et tu es un inventeur. Donc, tu fais la révolution. Voilà, tu nous diras.
Mon approche est au départ assez modeste. Hein. Elle vise à compenser un certain nombre de lacunes. Elle est étroitement, évidemment, corrélée à mon travail de professeur d'Hippocagne et de Cagne. À la jonction, au fond, entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. On a parlé autrefois ces classes, la propédeutique. Donc, on accueille des étudiants de plus en plus démunis, donc il y a évidemment une sorte de prise de conscience peut-être plus dramatique de l'évolution des temps dans ces classes que à l'université, où même si évidemment on est confronté à un public en premier cycle, on s'adresse à des petits groupes d'étudiants motivés par tel ou tel sujet. Donc, on a une vocation d'accueil assez démocratique parce que les classes préparatoires, en particulier, ont beaucoup évolué au fil du temps. Elles ne sont plus du tout conformes à ce qu'on on entend par classe préparatoire, je ne sais pas, il y a même 15 ou 20 ans. Surtout les classes préparatoires littéraires qui ont parfois du mal, contrairement aux idées reçues, à faire le plein. Et même si on accueille dans nos classes une cinquantaine d'étudiants en début d'année, eh bien, on a un classement qui nous fait chercher assez loin hein, les candidats littéraires. Donc, ça prouve qu'il y a quand même une difficulté. Et cette difficulté se retrouve dans l'accès aux œuvres et dans la culture littéraire des lycéens. Donc là, il y a évidemment à renouveler la lecture des Rougon-Macquart, par exemple, mais peut-être à diversifier un petit peu la connaissance de Zola en publiant d'autres textes.
Merci François-Marie.